Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Dans un jour dans le monde jusqu'à 19h, l'escale reportage, la crise de l'eau en Afrique du Sud, la ville du Cap menacée d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. On retrouvera sur place Lisa Fabian, notre correspondante. D'autres grandes villes dans le monde sont confrontées à ce problème de la crise de l'eau. Détails et explications avec Rosalie Lafarge dans notre rendez-vous Environnement Good Cop, Bad Cop. L'édito Diplo de Bertrand Galichet au Brésil. L'armée prend en main la sécurité à Rio, où des gangs font la loi. Mais tout de suite, l'élection présidentielle en Égypte, ce sera le 26 mars. Il n'y a rigoureusement aucun suspense.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Il dirige le pays arabe le plus peuplé, 93 millions d'habitants. Il dirige l'Égypte d'une main de fer depuis le coup d'État qui a renversé à l'été 2013 le seul président élu démocratiquement, l'islamiste Mohamed Morsi, réprimant dans le sang des partisans des frères musulmans. C'est le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, 64 ans. En 2014, il se fait élire sans adversaire véritable. Il est élu avec 96% des voix. Il a méthodiquement laminé toute opposition islamiste comme libérale, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes. Et là, en 2018, le 26 mars, nouveau scrutin présidentiel, un scrutin joué d'avance. Pourquoi ? Eh bien, tous ceux qui ont annoncé qu'ils seraient candidats contre Sissi ont été écartés ou ont jeté l'éponge. La liste des candidats à cette élection sera publiée dans quelques heures au Caire. Robert Solé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous connaissez parfaitement l'Égypte, vous êtes né au Caire, ancien journaliste au Monde, chroniqueur à l'hebdomadaire Le 1. Vous avez écrit alors de nombreux livres sur l'Égypte. Le dernier en date, Ils ont fait l'Égypte moderne, aux éditions Perrin. Robert Solé, cette élimination systématique avec des arrestations, des intimidations de tout rival sérieux, comment interpréter cette attitude du maréchal Sissi ?
Mais je pense que Sissi n'a voulu prendre aucun risque. Il devait être réélu de toute façon. Mais là, il sent qu'il est moins populaire. Et il a préféré éliminer, neutraliser tous les candidats potentiels pour être sûr de passer avec un nouveau score de 90 ou plus pour cent.
Vous dites qu'il est moins populaire, pourquoi ?
Il est moins populaire pour diverses raisons. D'abord une raison économique. Les Égyptiens souffrent économiquement. Il y a une hausse des prix spectaculaire en Égypte, qui est due à une restructuration de l'économie. Ça, c'est plutôt positif. Seulement, les conséquences sont très négatives pour une hausse des prix. Et puis, le maréchal Sissi n'a pas réussi à maintenir, à établir la sécurité. Puisque dans le Sinaï, il y a toujours cette guerre entre les djihadistes qui ont fait allégeance à l'État islamique et le pouvoir égyptien. Et puis, il y a quand même quelques attentats dans la vallée du Nil.
Et là, il a lancé une offensive dans le Sinaï, justement, pour tenter de venir à bout de ces lieux contrôlés par les islamistes.
Oui, c'est très difficile. Ouais. Le Sinaï est très difficilement contrôlable. C'est une zone désertique. Là, ce sont des commandos très bien armés, nombreux. Ce sont des Égyptiens, mais aussi des gens qui viennent d'ailleurs, des djihadistes d'ailleurs, et qui se sont implantés là, dans le Sinaï, avec parfois l'appui des tribus bédouines.
Vous dites qu'il y a un mécontentement économique en Égypte, et pourtant le FMI prévoit une croissance de 5% cette année en Égypte.
Alors c'est ça, il y a eu quand même une restructuration à la demande du FMI, qui a prêté 12 milliards de dollars à l'Égypte. On a libéralisé l'échange, on a institué une TVA, on a bloqué les salaires des fonctionnaires. Enfin, il y a eu toute une série de mesures qui étaient indispensables parce que 70% du budget égyptien était consacré à la dette, au paiement des fonctionnaires, des salaires des fonctionnaires et aux subventions.
Certains observateurs disent que Moubarak, c'était une dictature molle et que Sissi, c'est la dictature implacable.
Oui, alors ça s'est accentué, mais il faut se rendre compte quand même que depuis des décennies en Égypte, il n'y a pas de liberté. Enfin, ça fait des décennies qu'il y a un pouvoir fort en Égypte qui tient le pays. Alors c'est vrai qu'à la fin de la période, Moubarak a gouverné 29 ans. À la fin, ça s'était un petit peu assoupli, il y avait de petits partis qui existaient, etc. Il y avait une contestation, et là c'est beaucoup plus dur, bien entendu.
Avec une omniprésence des services de sécurité intérieure, les fameux Moukabarat, hein, des oui, arrestations, alors, des dizaines de milliers oui, de personnes alors, arrêtées.
Oui, alors tout ça n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué. Ça s'est accentué et puis on assiste à une sorte de vengeance de la police. Vous vous souvenez qu'en 2011, quand il y a eu le printemps arabe, ce sont les policiers qui avaient peur des manifestants. Et là, de nouveau, on revient dans l'autre sens, si je puis dire. C'est la police qui se venge. Il n'est pas sûr que Sissi contrôle vraiment tout ça.
Mmh. Robert Solé, est-ce qu'il y a encore une liberté d'expression actuellement en Égypte? Ou alors est-ce que tout est contrôlé, la télévision, la presse? On retrouve l'époque de Moubarak ou à la télévision, par exemple, je m'en souviens, on voyait l'emploi du temps du président Moubarak qui allait serrer des mains ici, inaugurer un monument là. On est revenu à ce stade-là maintenant avec Sissi?
Oui, alors il y a quand même, on peut pas, il y a quand même, il y a une justice qui fonctionne plus ou moins bien. Il y a des médias qui sont pas tous entièrement contrôlés. Vous voyez, il faut un petit peu relativiser les choses.
Certains osent encore contester, critiquer le maréchal Sissi.
Oui, mais alors ça dépend. Il y a une contestation sur des questions sur des questions de morale, sur des questions. Il n'y a pas que la politique. Il y a quand même, c'est un pays vivant, un pays de 100 millions d'habitants qui est très vivant. J'y étais il y a pas longtemps. Et beaucoup de militants, si vous voulez, se sont reconvertis dans d'autres domaines, la culture par exemple. Dans le domaine culturel, vous avez beaucoup d'audace. Vous avez beaucoup d'audace. Il y a pas, c'est pas une chape de plomb complète.
Est-ce qu'il reste encore quelque chose, justement, alors, cette révolution du 25 janvier 2011 qui avait ouvert l'espoir d'une démocratisation avec le départ de Moubarak? C'est terminé, ça?
C'est terminé, en même temps, ça a eu lieu. Ça a eu lieu.
Toute cette jeunesse qu'on a vue sur la place Tahrir en 2011, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait?
Oui, alors pour le moment, certains sont en prison, d'autres se taisent ou s'occupent d'autre chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand même, on est descendu dans la rue. On a osé affronter la police. Et puis, c'est un pays qui est très ouvert aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux. C'est un pays étonnamment connecté. On n'imagine pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc.
Mais vous n'avez pas ressenti la peur générale dans ce pays face à cette dictature du maréchal Sissi?
Encore une fois, quand on est sur place, si vous voulez, ouais. ce n'est pas le souci premier des Égyptiens. Le souci premier des Égyptiens, c'est l'économie, c'est la situation économique. Et puis, certains se disent, on est quand même mieux que nos voisins. On est mieux que la Libye, on est mieux que la Syrie, on est mieux que le Yémen, qui tous sont... Sissi, au moins, maintient l'État. Sissi nous a débarrassé des frères musulmans, vous disent les Égyptiens. Et puis, il a évité une guerre civile.
Dans votre livre, Robert Solé, Ils ont fait l'Égypte moderne, aux éditions Perrin, vous écrivez que Sissi pense que les pays arabes ne sont pas prêts pour la démocratie.
Oui, il en est intimement convaincu, je pense. Et c'est vrai que l'Égypte est un pays très difficile à gouverner, avec beaucoup d'illettrés, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités, beaucoup de corruption. Mais, évidemment, ça ne justifie pas une atteinte à toutes les libertés.
Alors une question, est-il mal vu sur la scène internationale, le maréchal Sissi, avec l'instauration de sa dictature? Eh bien, pas du tout. On va réécouter, Robert Solé, ce que disait Emmanuel Macron sur le dossier des droits de l'homme en Égypte, lorsqu'il a reçu à Paris le maréchal Sissi. C'était en octobre 2017.
Je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sissi opère. Et il a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre les mouvements terroristes, la lutte contre un fondamentalisme religieux violent. Nous ne pouvons en faire abstraction. La deuxième chose, c'est que je crois à la souveraineté des États. Et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres.
Robert Solé, donc le maréchal Sissi n'est pas un paria sur la scène internationale?
Il est tranquille? Il n'est pas un paria, il est un partenaire indispensable au Proche-Orient. Il garantit, comme son prédécesseur Moubarak, il garantit la paix israélo-arabe. Vous savez, on ne peut faire, sans l'Égypte, on ne peut faire ni la guerre, ni la paix. On ne fera pas la guerre. Et ça, c'est essentiel. D'autre part, Sissi, effectivement, est confronté à un terrorisme dans la région. C'est un partenaire indispensable. Alors, on ne lui donne pas des leçons publiquement, mais discrètement, parce que ça ne sert à rien, d'ailleurs, de lui donner des leçons publiquement. On essaye de l'influencer discrètement.
Quel est le quotidien des Égyptiens aujourd'hui sous la dictature de Sissi? Donc, les plus pauvres sont toujours très pauvres et d'autres s'enrichissent avec cette croissance qui existe.
Vous avez vraiment une accentuation des inégalités. Ce n'est pas particulier à l'Égypte. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où les inégalités s'accroissent, mais c'est le cas en Égypte. Vous avez cette... Alors, il y a des gens qui vivent très bien, il y a des gens qui vivent très mal, c'est sûr. Et puis, il y a ce problème démographique, quand même. On n'en parle pas assez, si vous voulez. Ça aussi, ça obsède les Égyptiens. La population a doublé en 30 ans. La population a doublé avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le logement, sur l'éducation, sur la santé. C'est très compliqué.
Le portrait de cet homme, le maréchal Sissi, qui sera donc réélu, il n'y a aucun suspense, hein, au mois de mars, le 26 mars, le scrutin va se dérouler sur une période de 2 jours. On attend la liste du candidat ou des candidats qui vont oser affronter le maréchal Sissi. D'après ce que l'on sait, il y aurait un seul autre candidat, un proche du maréchal Sissi, c'est le chef du parti libéral égyptien, il s'appelle Moussa Mostafa Moussa.
Oui, alors il s'est dévoué, ça n'a aucun sens bien entendu, ça ne changera rien, et Sissi sera réélu. Alors il y a quand même un problème, c'est qu'il prend le risque d'avoir une très faible participation. Il y a des gens appellent aujourd'hui à boycotter les élections, tous ces petits partis qui ont beaucoup de mal à exister. C'est ça le problème de l'Égypte. Le problème de l'Égypte, c'est que Moubarak avait fait en sorte qu'il n'y ait en face de lui que les islamistes, que les frères musulmans, seule force constituée. À partir du moment où vous mettez les frères musulmans en prison, il ne reste plus rien. Il n'y a pas d'opposition et la démocratie ne se fabrique pas comme ça simplement parce qu'on a chassé un pharaon.
Il y a une peur chez, disons, les pratiquants, les islamistes purs et durs dans ce pays. On dit que même porter la barbe, c'est inquiétant.
Mais non, c'est tout à fait faux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, si les frères musulmans sont pourchassés, vous avez les salafistes qui sont en toute liberté. Et vous avez des gens ultra-conservateurs qui sont dans des postes importants dans la mosquée université d'Al-Azhar. Quand on parle de liberté en Égypte, on pense toujours aux libertés politiques. Mais il y a une autre atteinte aux libertés. C'est cette religion omniprésente qui est là, et frères musulmans ou pas, qui est toujours présente. C'est un des problèmes de ce pays.
Un mot du maréchal Sissi, c'est un musulman qui fait ses 5 prières chaque jour. Son épouse est voilée.
Son épouse porte ce tchador comme la majorité des femmes égyptiennes. C'est un musulman, je pense que c'est un musulman modéré, comme l'était d'ailleurs Sadat, par exemple, ou Moubarak. Ce n'est pas un extrémiste, simplement, en Égypte, vous avez 2 forces, l'armée et en face les frères musulmans. Ce sont 2 forces incompatibles qu'on a voulu concilier et c'est impossible pour le moment.
Et le maréchal Sissi, est-ce qu'il était préparé à jouer un rôle politique de premier plan?
Absolument pas. Absolument pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit une grande figure politique. C'est le hasard qui l'a conduit là, à ce poste. Alors, il fait des choses quand même. Il fait des choses. Il faut pas. Il a réussi. Il s'appuie sur l'armée. L'armée qui est omniprésente en Égypte, comme elle ne l'a jamais été. L'armée était déjà un état dans l'état. Mais aujourd'hui, elle se mêle de tout. Mais aussi de bonnes choses. C'est-à-dire qu'on a réussi à doubler une partie du canal de Suez. On est en train de créer une nouvelle capitale à 50 kilomètres du Caire. Ce sont de grandes réalisations. Sissi n'a peut-être pas de politique économique, mais il a des projets pharaoniques et il réussit avec l'armée à les mettre en œuvre. Et ça, c'est plutôt pour lui un point positif.
Et toute personne qui le conteste est en danger.
Oui, alors les gens évitent de le contester.
Robert Solé, merci beaucoup d'être venu ce soir dans ce studio. Je rappelle la parution de ce livre chez Perrin. Ils ont fait l'Égypte moderne. Vous parlez de toutes ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Égypte. Merci beaucoup.
France Inter. Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Et à suivre jusqu'à 19h, on va parler environnement, good cop, bad cop, bien sûr, allusion à la COP 21, la COP 22, avec Rosalie Lafarge. Bonsoir.
Bonsoir.
Rosalie. Alors, de quoi on parle ce soir?
On va parler de l'eau, en partant de ce qui se passe au Cap. On va voir que les voyants sont clairement en rouge sur pas mal d'endroits de la planète bleue, finalement.
18h55, l'édito diplo de Bertrand Galichet. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Pierre.
Alors, le Brésil s'apprête à mettre en œuvre les opérations militaires contre le crime organisé à Rio de Janeiro, après les violences qui ont émaillé le carnaval. C'est la première fois que l'armée est chargée de la sécurité dans un État brésilien depuis le retour de la démocratie, c'était en 1988. Et cette décision, Bertrand, du gouvernement fédéral provoque déjà pas mal de réactions.
Oui, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, trois jeunes Brésiliens noirs donnent des conseils de survie à leur communauté face aux forces de l'ordre, une sorte de guide préventif pour éviter les abus que redoutent les habitants des favelas lors des opérations menées par l'armée et la police. Et cette vidéo en dit long sur la violence qui gangrène la société brésilienne.
À tout à l'heure, Bertrand. Et voici un groupe californien, Hills. Le 12e album de ce groupe sortira au mois d'avril. Hills et ce titre, The Deconstruction. Le groupe Hills, The Deconstruction, le groupe sera en concert à Paris à l'Olympia le 9 juillet.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et voici sous les radars de l'actualité avec Florence Paracuelos, des informations surprenantes à travers le monde. Florence, vous nous emmenez d'abord à l'autre bout du monde pour commencer.
Aux îles des Antipodes, archipel sauvage situé à 700 km au large de la Nouvelle-Zélande, juste au-dessus de l'Antarctique. Un navire de la marine néo-zélandaise fait route vers la zone avec à bord 10 rangers, 3 chiens renifleurs, une ministre et des militaires pour faire le bilan du Million Dollar Mouse Project. Le projet sourit à 1 million de dollars. De quoi s'agit-il ? Du plus vaste programme d'extermination animale au monde, si on excepte les moustiques, avec la bénédiction du WWF. Éradiquer 200 000 souris, introduites il y a plus d'un siècle par des chasseurs de phoques ou au cours d'un naufrage, on ne sait pas très bien. Depuis, en tout cas, elles ravagent ces îles sauvages, d'où ce projet à 1 million de dollars néo-zélandais, mené il y a 2 ans. Des tonnes de céréales empoisonnées larguées par hélicoptère, puis 13 personnes au sol pour finir le travail. C'est Stéphane Horn qui a dirigé ce sale boulot. Ces îles font partie du patrimoine mondial. Elles sont uniques et les souris ont fait beaucoup de dégâts dans l'écosystème. Elles mangent énormément, elles dérangent les oiseaux, elles avalent tous les insectes et c'est pour ça qu'on doit s'en débarrasser, pour aider les îles à s'en remettre, à revenir à l'état sauvage. Voilà, Stéphane Horn, la ministre de la conservation, les chiens, les rangers et les militaires sont donc en train de s'y rendre dans ces îles pour vérifier le succès de l'opération. Pour ça, l'équipée devra d'abord escalader les 18 mètres de falaise qui ceinturent l'île principale, puis 3 semaines sont prévues sur place pour traquer les éventuelles souris rescapées et voir si les albatros ont repris leurs droits.
Florence, d'une île à l'autre, cap au nord, direction l'Islande.
L'Islande qui, selon le Guardian, pourrait devenir le premier pays d'Europe à interdire la circoncision. Un projet de loi est en ce moment dans le Parlement. Il prévoit 6 ans de prison pour quiconque pratiquerait cette ablation du prépuce pour des raisons qui ne seraient pas médicales. Cela enfreint la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, précise le texte, qui fait l'analogie avec l'excision des petites filles. Donc c'est très clairement le rituel religieux qui est visé. Les juifs et les musulmans pratiquants font circoncire leurs garçons au cours des tout premiers jours chez les juifs, souvent un petit peu plus tard chez les musulmans, d'où l'inquiétude des religieux à travers toute l'Europe et pas seulement des premiers concernés. Le cardinal Reinhard Marx, président des épiscopats de l'Union européenne, dénonce une attaque dangereuse contre la liberté religieuse. Les communautés juives et musulmanes préviennent que si la circoncision est interdite, la pratique deviendra clandestine ou alors qu'elle se fera à l'étranger. Et tous s'accordent à dire que la circoncision n'a rien à voir avec les mutilations génitales féminines parce qu'elle n'a pas d'impact négatif à long terme. D'ailleurs, l'OMS estime que 30% des hommes sont circoncis dans le monde et sur la base de 3 études, elle affirme que l'absence de prépuce réduit le risque de contracter le sida.
Enfin, Florence, est-ce un nouveau marché dans le secteur des laits pour bébés ? Voici le premier lait de chamelle en poudre.
Présenté au Salon international de l'alimentation de Dubaï, Camelicious s'adresse aux bébés de 1 à 3 ans allergiques au lait de vache. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est une entreprise locale qui se lance avec l'argument suivant. Le lait de chamelle, comme vous le savez, est très riche en vitamine C. Il en a 3 ou 4 fois plus que le lait de vache. Et la formule Camelicious pour bébé est enrichie en vitamine B1 et B2 qui sont riches en théanine. Alors la théanine, je suis assise à regarder ce que c'était, c'est un acide aminé qui est un antistress naturel. Ce lait produit à Dubaï est enrichi et conditionné aux Pays-Bas. Pour l'instant, il est vendu dans le Golfe, mais l'entreprise vise l'Asie, l'Afrique et l'Europe pour des biberons à la mode bédouine, Pierre.
Florence Paracuelos sous les radars de l'actualité. Merci.
Sous les renards, vous vouliez dire.
À demain, Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Escale reportage en Afrique du Sud. La ville du Cap, la 2e agglomération du pays avec 4 millions d'habitants, est frappée par sa pire sécheresse depuis un siècle. Les réserves d'eau sont au plus bas au point que les robinets pourraient être à sec. Ce serait le jour zéro. Ce jour-là, très redouté, les habitants devront s'approvisionner auprès de 200 points d'eau d'urgence et récupérer une ration de 25 litres par jour et par personne. En ligne avec nous, notre correspondante en Afrique du Sud, Lisa Fabian. Alors, Alors Lisa, les habitants du Cap ont dû s'adapter pour préserver l'eau avant qu'il ne soit trop tard. L'État sud-africain a proclamé l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays à cause de cette sécheresse, ce qui devrait permettre de débloquer des fonds pour améliorer l'infrastructure.
L'activité est intense autour de la source naturelle de Newlands. En fin de journée, les habitants du Cap défilent près de ce point d'eau pour remplir seaux et bidons. Des hommes en chemise, tout juste sortis du travail, côtoient les femmes de ménage venues faire le plein d'eau pour la semaine. Jill est appuyée sur sa canne tout près de la source.
Je viens chercher de l'eau pour nettoyer ma maison et cuisiner. J'ai amené mes bidons de 5 litres. Je vais les remplir et les ramener chez moi. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer. Est-ce que nos robinets vont arrêter de couler demain ou pas? Ne pas avoir d'eau potable, d'eau fraîche, ce serait vraiment terrible et dangereux. Moi, j'essaie d'être positive. J'espère qu'ils vont trouver des solutions. Et puis, généralement, il se met à pleuvoir vers Pâques.
Depuis le 1er février, l'eau du robinet est limitée à 50 litres par jour et par personne au Cap, sous peine d'une très grosse amende. Kiss a décidé il y a quelques semaines de ne plus accueillir aucun touriste dans l'appartement qu'il loue sur Airbnb.
On savait qu'il y avait une sécheresse depuis longtemps, mais on ne s'attendait pas à en arriver là. On a fait l'expérience à la maison, on se douche seulement deux fois par semaine. Le reste du temps, c'est juste un peu d'eau dans une bassine. Et c'est difficile, vous savez, c'est tellement réel que 99% des conversations tournent autour de ce sujet. Il faut vraiment faire des efforts, il faut lutter contre ça. Si vous voyez quelqu'un arroser son jardin, il faut dénoncer cette personne.
Pour faire face à la pénurie d'eau, certains ont sorti les grands moyens. C'est le cas d'André Swart. Ce retraité est l'un des modérateurs de la page Facebook Watershedding Western Cape, qui réunit plus de 150 000 personnes pour parler de la crise de l'eau et échanger des conseils.
Ça, c'est une machine à laver portative pour le camping. Vous mettez de l'eau là-dedans avec un peu d'ammoniac pour ne pas avoir à rincer. Vous tournez deux minutes et voilà. Les citernes à l'extérieur, deux citernes de 2500 litres chacune. Comme vous voyez, elles sont reliées à la gouttière pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Je n'utiliserai pas cette eau pour boire, mais comme elle est assez claire, on peut laver les vêtements avec si on en arrive là. Le jour zéro, j'utiliserai l'eau de ma piscine pour tirer la chasse dans les toilettes. Je récupère aussi l'eau sale de ma machine à laver. C'est 25 litres à chaque machine qui arrive dans ces deux grosses bassines. Je mets de l'antibactérien dedans et voilà, c'est tout ça.
Selon les autorités, à peine la moitié des Keptoniens respecte réellement les restrictions imposées par la ville, une situation qui agace André Swart.
La municipalité du Cap a publié la liste des 100 plus gros consommateurs d'eau de la ville. Ok, il y avait aussi quelques fuites. Mais il y a des gens qui continuent aujourd'hui d'utiliser 70 000 litres d'eau par mois. Et après, ils disent « mais je paye pour ça, c'est quoi le problème ?» Mais ce n'est pas la question, monsieur, que vous ayez de l'argent ou pas. Bientôt, il n'y aura plus d'eau. Quand donc allez-vous comprendre que bientôt, quand vous voudrez remplir votre piscine à nouveau, il n'y aura rien qui sortira du robinet ?
Dans les townships qui entourent la ville, l'eau courante est depuis toujours un luxe. Ces immenses bidonvilles concentrent la plus grande partie de la population du Cap, des habitants pauvres, majoritairement noirs et métis. Mais ceux-ci ne comptent que pour 5% de la consommation totale d'eau au Cap. Félina vit dans une cabane de tôle avec ses 4 enfants et son mari. Le robinet public est son seul accès à l'eau potable.
Nous devons marcher en bas de la rue pour aller chercher notre eau. Là-bas, le robinet public fonctionne, mais le nôtre de notre côté, il ne marche pas. C'est vraiment dur d'avoir de l'eau. Chaque jour, je ramène 40 litres environ.
L'accès à l'eau nourrit aussi la fragile économie informelle du bidonville, notamment pour les laveurs de voitures qui nettoient les taxis collectifs.
La police est venue et ils nous ont confisqué tous nos tuyaux d'arrosage. Nous utilisons des seaux maintenant. Ils nous demandent de payer 250 euros pour récupérer nos tuyaux. On ne sait pas où trouver cet argent. Nous n'avons pas d'argent et nous avons des enfants à nourrir. Ça va faire monter le crime.
Des investissements seront nécessaires pour faire face à la crise de l'eau. Kirsty Carden est spécialiste d'ingénierie civile à l'Université du Cap.
Pour tenter de repousser le jour zéro, la seule solution qu'avait la ville, c'était de forcer les gens à économiser l'eau. Sur le long terme, évidemment, la diversification de l'approvisionnement est essentielle. Nous devons nous sortir de notre dépendance à l'eau de surface. Que ce soit en exploitant les ressources des nappes phréatiques, en récupérant l'eau de pluie, ou en traitant l'eau des égouts pour qu'elle soit potable. Et bien sûr, avec la désalinisation.
En attendant, le jour zéro vient d'être repoussé au mois de juillet, mais l'arrivée de la saison des pluies devrait encore éloigner cette échéance.
Voilà, reportage de Lisa Fabian au Cap, en Afrique du Sud.
France Inter.
Climate change is real.
Pierre Veil.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Good Cop, Bad Cop, notre rendez-vous environnement dans la lignée des conférences COP21, COP22. C'est maintenant, on reste sur ce dossier fondamental de l'eau. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Le manque d'eau potable se fait donc ressentir au Cap, mais le reste du monde, Rosalie, n'est pas à l'abri, loin de là. La pénurie d'eau n'est vraiment pas un scénario réservé à l'Afrique du Sud.
L'eau qui ne coule plus du robinet, ça pourrait arriver rapidement dans une centaine de grandes villes du monde. Et quand on dit rapidement, on parle à horizon 2050. C'est en tout cas la prévision de chercheurs allemands dont l'étude est publiée sur le site de Nature. Et ça n'étonne pas franchement Marie-Lys Massé. Elle est directrice générale du Centre d'information sur l'eau.
L'eau douce actuellement, elle est abondante, l'air de rien, mais elle est mal répartie entre les populations. On est 7 milliards de terriens. D'ici 2050, nous serons 9 milliards. Et ces 9 milliards vont se trouver principalement dans les pays qui sont actuellement en développement et qui sont déjà confrontés à l'heure actuelle à des difficultés vis-à-vis de l'eau. Et si on ne gère pas les ressources dès maintenant, eh bien on aura 2/3 de notre population, et là, pas en 2050, mais dès 2030, c'est-à-dire demain, qui subira de plein fouet ce manque d'eau.
Et parmi les villes les plus exposées après le Cap, on trouve Los Angeles ou San Diego aux États-Unis, Jaipur en Inde, Lima au Pérou, Kaboul en Afghanistan ou encore Dar es Salaam en Tanzanie. Ces villes risquent de se retrouver en situation de stress hydrique. C'est quand un être humain dispose de moins de 1700 mètres cubes d'eau par an. Et ça illustre bien la complexité de la fourniture en eau. Elle est abondante, on le disait, mais elle est aussi toujours plus demandée.
Des chiffres qui étaient donnés il y a quelques années par un institut français, le BRGM, disaient qu'il allait falloir trouver pour l'ensemble du globe 4500 km3 d'eau douce en plus chaque année. Il va y avoir des coûts pour mobiliser la ressource qui vont être plus élevés, hein, des coûts d'exploitation. Et là encore, on peut se poser la question, est-ce que les pays en développement, donc qui vont recevoir cette population supplémentaire majoritairement, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer et trouver les fonds ?
À tout cela, Rosalie, s'ajoute le problème du réchauffement climatique qui, évidemment, n'arrange rien.
Il faut savoir que les nappes souterraines fournissent de l'eau potable au moins à la moitié de l'humanité, de l'eau aussi pour l'agriculture, mais les aquifères ne se remplissent pas comme ça en claquant des doigts. Or, la planète s'est déjà réchauffée d'un degré depuis l'ère pré-industrielle. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et selon le GIEC, les experts climat de l'ONU, à chaque degré de plus, 7% de la population mondiale perd 20% de ses ressources en eau renouvelable. Et comme les sécheresses s'annoncent de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes dans des zones déjà arides, on voit bien le problème qui arrive.
Malgré tout, ce n'est pas une fatalité. On peut faire quelque chose.
Lutter contre le réchauffement, d'abord se lancer dans des techniques de désalinisation. On l'entendait à la fin du reportage au Cap. Mais ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à bien gérer la ressource. Et la gestion de l'eau, c'est la spécialité de Gérard Payen. Il est l'ancien conseiller pour l'eau auprès du secrétaire général des Nations Unies.
Il est possible d'alimenter en eau toutes les villes du monde, sauf dans des cas de sécheresse extrême, vraiment extrême. Techniquement, il y a des solutions. Par contre, ça rendra plus difficile l'utilisation d'eau pour les autres activités humaines, que sont essentiellement l'agriculture et l'industrie.
Et oui, parce que l'usage domestique, l'eau du robinet, c'est 10% de la consommation d'eau douce au niveau mondial. L'industrie, c'est le double. L'agriculture, c'est tout le reste, 70% du total des prélèvements.
Pour que tout le monde continue à avoir de l'eau potable, il faut d'une part bien la gérer, éviter les gaspillages, mais il faut aussi faire en sorte qu'on produise plus de nourriture avec pas plus d'eau, plutôt moins d'eau. Dans les pays où on utilise de l'eau pour l'irrigation, il va sans doute falloir faire des efforts de façon à ce que chaque goutte d'eau qu'on court à produire davantage de tonnage de produits agricoles. Mais c'est tout à fait possible.
Et il y a aussi tout un travail à faire sur la réutilisation des eaux usées, dont 80% sont aujourd'hui rejetées sans traitement, d'après les Nations Unies.
Good Cop, Bad Cop, la crise de l'eau avec Rosalie Lafarge dans Un jour dans le monde. Il est 18h53, 1972, un classique du rhythm and blues américain, Curtis Mayfield. C'était son troisième album, Pusherman. C'est en l'écoutant que Michael Jackson a voulu faire de la musique. Curtis Mayfield, 1972, Pusherman.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
L'édito Diplo avec Bertrand Galichet. Bertrand, les favelas de Rio de Janeiro redoutent une flambée de violence à l'approche des opérations de maintien de l'ordre annoncées par le président brésilien Michel Temer. Par décret, le chef de l'État a placé la sécurité de l'agglomération de Rio sous contrôle de l'armée. Cette décision prise vendredi dernier est une première depuis la fin de la dictature militaire et le retour à la démocratie. En 1988, le gouvernement justifie l'intervention de l'armée par les agressions qui ont émaillé le carnaval de Rio et plus généralement par la lutte contre le crime organisé. Mais la population, Bertrand, la population des favelas, craint des exactions de la part des forces de l'ordre.
Oui, cette peur des bavures policières s'exprime dans une vidéo de 3 minutes et demie qui se répand depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Un enregistrement dans lequel 3 jeunes noirs se succèdent face à la caméra pour expliquer à leur communauté la conduite à tenir, une sorte de guide de survie à l'attention de ceux qui paraîtraient les plus suspects aux yeux des forces de l'ordre.
Esse vídeo fala sobre abordagens de agentes de segurança no nosso país que abusam do poder do...
Malheureusement, nous les Noirs sommes toujours victimes d'abus et de représailles, explique calmement ces jeunes qui égrènent des conseils, ne pas sortir de chez soi tard le soir, sous peine d'être considéré comme un dangereux bandit, ne pas sortir sans ses papiers d'identité ou son téléphone portable, prévenir ses proches, tout enregistrer en cas d'interpellation, et enfin ne pas emporter de parapluie qui pourrait de loin être pris pour une arme. L'un des intervenants juge triste de devoir faire cette vidéo, mais assure qu'au moment où commenceront les interventions militaires, eh bien ce sont les Noirs et les pauvres des favelas qui en subiront les conséquences.
Bertrand Galichet, un message qui en dit long sur l'état d'esprit dans la population et sur cette situation qui aurait pu être évitée.
Parce qu'au début de cette décennie, à partir de 2011 exactement, un cercle vertueux s'est esquissé dans certaines favelas, notamment dans le plus grand bidonville de Rio, celui de Rocina, où vivent plus de 100 000 personnes. La police a mené des opérations spectaculaires et parfois meurtrières pour en expulser les trafiquants de drogue et reprendre le contrôle du quartier. Des touristes ont même été incités à s'y rendre. Les autorités de Rio voulaient en faire un modèle de reconquête des zones de non-droit. L'expérience qui semblait bien engagée a finalement tourné court. La guerre des gangs et le trafic de drogue ont repris le dessus. Ces favelas sont aussi redevenues les bases arrière des voyous, notamment ceux qui ont perturbé le carnaval de Rio.
Pourquoi les autorités brésiliennes en appellent-elles à l'armée pour tenter de pacifier la ville?
Eh bien, les violences en marge du carnaval n'expliquent pas tout. Elles servent même de prétexte pour intervenir, car beaucoup d'écoles de samba, la semaine dernière, ont défilé sur des thèmes très politiques pour dénoncer la violence et la corruption, deux fléaux qui exaspèrent les Brésiliens. Et la population réclame des résultats, mais au Brésil, chacun des 26 États qui composent le pays est censé assurer sa propre sécurité, souvent sans en avoir les moyens. D'où la demande faite par le gouverneur de Rio d'un recours aux militaires, requête aussitôt acceptée par le président brésilien Michel Temer. Englué dans des soupçons de corruption, le chef de l'État tente de satisfaire une opinion à bout de patience.
Bertrand, quel est l'enjeu de cette carte blanche donnée aux militaires ?
Alors cela pose d'abord la question du pouvoir donné à l'armée dans cette situation. Et puis en toile de fond, il y a bien sûr la présidentielle d'octobre prochain. L'actuel président, dont la popularité atteint péniblement 5%, espère redresser un peu son image et faire passer ses réformes libérales. Il doit faire face à la poussée de l'extrême droite, mais aussi à gauche, au grand retour de l'ancien président Lula, choisi le mois dernier, malgré ses ennuis judiciaires, comme candidat du Parti des Travailleurs.
L'édito Diplo, Bertrand Galichet. Merci Bertrand.